Série d'études dans 1 Thessaloniciens. Alors je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, sinon vous avez une Bible au fond là avec des cantiques pour celui qui n'en a pas, mais 1 Thessaloniciens et puis chapitre 2. Je sais que nous sommes là depuis quelques temps, mais on prend une ou deux pensées à la fois. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 2, notre passage clé ce sera les versets 3 et 4, mais je vais lire tout les 12 premiers versets pour toujours conserver le contexte. Donc il s'agit d'une situation où l'apôtre Paul est arrivé à Thessalonique. Ça s'appelle Salonique aujourd'hui, en Turquie, c'est Salonique maintenant, en Thessalonique. Et il a prêché la parole, beaucoup de gens ont répondu, ils ont été transformés, mais très vite la persécution est arrivée et Paul et son équipe, ils ont dû partir assez rapidement. Et alors, ça n'a pas empêché que des mauvaises langues commencent, ça existe depuis longtemps, les mauvaises langues. Et alors, les mauvaises langues ont commencé à parler, à critiquer Paul et son équipe. Alors, il répond un peu à leurs critiques. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et je commence avec le verset 1. « Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance à notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde de nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité, comme les apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et que son esprit nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire ce matin. Je relis les versets 3 et 4. Il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui console nos cœurs. Alors deux pensées que je veux relever. C'est la première, c'est que Dieu lui-même les a jugés dignes d'apporter cette parole. Et deuxièmement, il a dit que ce n'était pas pour plaire à des hommes. Alors Dieu venait de... On a vu dans le verset 2, ils étaient venus assez maltraités. Comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, leur dos brûlait encore des coups qu'ils avaient eus à Philippe. Et ils ont dit qu'ils ont pris de l'assurance en notre Dieu. Ils ont pris de l'assurance et ils ont prêché, ne sachant pas quelle réception ils auraient à Thessalonique. Et vous savez, comme on dit en français, chat échaudé craint l'eau froide. Hein. Une fois qu'on a passé une mauvaise expérience, on est hésitant pour la deuxième. Hein. Et donc, ils ont prêché la parole à Philippe. Ça s'est mal passé. La chose naturelle, c'est qu'on hésite dans la deuxième ville. Mais il a dit, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu et nous avons été de l'avant. Et Paul dit, nous avons été jugés dignes et Dieu nous a confié l'évangile. C'est lui qui nous a choisis. Et si je revois un peu la vie de l'apôtre Paul, vous vous souvenez comment l'apôtre Paul, sur le chemin vers Damas, ses intentions, c'était d'aller à Damas, d'arrêter quelques chrétiens, de les prendre prisonniers, de les ramener à Jérusalem et de les faire souffrir. Il était l'ennemi numéro un de l'évangile, alors que l'Église, c'était un embryon, c'était tout petit, ça commençait tout juste, c'était jeune. Et lui, il voulait menacer cette Église toute jeune, hésitante encore. Et puis Dieu lui parle en chemin. Et sa vie est touchée. Et alors l'apôtre Paul se lève. Il est aveugle du point de vue physique, mais maintenant il voit clair du point de vue spirituel. Il a trouvé une nouvelle vue. Et il est mené jusqu'à Damas. Et là, le Seigneur parle à Ananias, un des anciens de l'Église, là, à Damas. Et voilà ce qui est dit de l'apôtre Paul. Il dit, c'est dans Actes chapitre 9, verset 15, dit, « Va vers cet homme, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Il dit, c'est un instrument que j'ai choisi. L'apôtre Paul dit, c'est pas moi qui me suis choisi, c'est Dieu qui m'a choisi. C'est lui qui m'a envoyé pour que je sois un témoignage devant les nations, ça c'était une nouvelle pensée, les non-juifs, devant les rois, c'est en général, ils étaient mal vus, ils étaient persécutés par ceux qui gouvernaient, et devant les fils d'Israël, ceux qui avaient crucifié le Christ. Et puis, je saute quelques étapes, et puis on arrive à Antioche, ou Antioche, et là, l'église est en train de grandir, l'apôtre Paul et Barnabas sont là dans cette église, et ils enseignent, et l'Esprit dit aux anciens, ils sont passés un moment de jeûne et de prière, et les anciens disent, l'Esprit dit aux anciens de cette église, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui les a appelés? Ce n'est pas eux qui se sont nommés, ce n'est pas eux qui l'ont cherché, c'est l'Esprit qui a dit, mettez-les à part, je les ai appelés. Et ils sont partis. Ils ont fait leur premier voyage missionnaire, ils sont revenus, et à leur retour, il nous dit qu'à l'église d'Antioche, ils convoquèrent l'église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Donc, non seulement est-ce que Dieu a dit, je l'ai choisi, l'Esprit dit, envoyez-les, et ils sont partis, et le message a été bien reçu. Hein, et il y a eu du fruit. L'apôtre Paul repart encore une fois d'Antioche pour son deuxième voyage missionnaire. Et c'est là qu'il choisit comme partenaire Silas. Ici, dans les Thessaloniciens, il est appelé Sylvain. Hein, c'est la même personne. Et là, eh bien, ils partent tous les deux avec la recommandation de l'Église. Ce n'est pas eux qui ont dit, bon, bah, c'était bien réussi la première fois, on repart. Non, ils sont partis avec la recommandation. Il nous dit dans Actes chapitre 15, verset 40, il dit, c'est recommandé par les frères de l'Église à la grâce du Seigneur. Et pendant ce second voyage, il passe à Lystre. Et à Lystre, là, il rencontre les responsables de l'église à Lystre. Et on lui dit, écoute, tu vois ce jeune homme-là, Timothée, tu ne peux pas le prendre sous ton aile. Il est vraiment, c'est un jeune homme qui est pas mal, peut-être un adolescent, hein, qui sait. Et là, l'apôtre Paul le prend sous la recommandation des anciens, des responsables de l'Église. Donc lorsque l'Épître aux Thessaloniciens, il nous dit, c'est justement cette équipe, Paul, Sylvain et Timothée, ce sont les trois qui sont venus là, eh bien, il n'y en a pas un des trois qui s'est imposé, qui a dit, moi, je vais être celui qui prêche. Chacun a été appelé. Paul a été appelé. Sylvain a été recommandé par l'église d'Antioche et Timothée a été recommandé par les anciens à Lystre. Et puis, ils sont là, ils sont sur le point de traverser vers l'Europe et à Troas, c'est là que Paul a cette vision et il a la vision d'un homme, d'un Macédonien, donc quelqu'un de l'Europe, hein. C'est la première fois que l'évangile va pénétrer en Europe. Et là, ce Macédonien dit, passe en Macédoine, secours-nous. Et là, il comprend que le Seigneur le dirige vers cette partie-là du monde. Et donc, quand l'apôtre Paul est arrivé à Thessalonique, c'est tout à fait dans le plan de Dieu. C'était pas lui qui avait inventé quelque chose, c'est pas lui qui avait voulu, c'est pas lui qui a monté un programme. C'était tout à fait dans la volonté de Dieu. Alors, ces mauvaises langues, l'apôtre Paul répond et dit, mais c'est Dieu qui nous a jugés dignes d'apporter cet évangile, de prêcher cet évangile. Et donc, l'apôtre Paul et Sylvain et Timothée sont là, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent à Thessalonique, et ils ont prêché la parole. Et si je lis d'autres passages dans les Épîtres, eh bien, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, par exemple, au chapitre 3, verset 8, il dit « À moi qui suis le moindre des saints, à moi qui suis le moindre des saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Il a dit « c'est pas parce que je suis le meilleur, c'est pas parce que je suis le plus doué, c'est Dieu m'a donné cette grâce. » Parce que l'apôtre Paul avait toujours, toute sa vie, il avait cette conviction, ce regret d'avoir persécuté l'Église. Et ça ne l'a jamais quitté. Bon, ça l'a permis de peut-être rester humble aussi, ce qui est toujours une bonne chose, hein, pour un enfant de Dieu. Mais il a dit, Dieu m'a fait cette grâce. Finalement, s'il m'avait seulement sauvé, ça aurait été une grâce extraordinaire, parce que j'étais terrible. Mais en plus, il m'a donné la possibilité d'être un serviteur, de parler, de porter l'évangile et le porter aux païens. Lui-même était le premier surpris que Dieu veuille se servir de lui. Et il dira à Timothée, pour l'encourager, par la suite il écrira une lettre à Timothée, un jeune pasteur qui rencontre des difficultés, pour l'encourager, il lui dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Il dit « J'avais tout pour ne pas qualifier. Hein, mon CV n'était pas bon pour être un serviteur de Dieu. Mais Dieu m'a fait cette grâce. » Il dit, Timothée, prends courage, toi au moins, tu avais une grand-mère qui t'a enseigné la parole, tu avais une mère qui aimait le Seigneur, toi tu as grandi là-dedans, c'est un peu plus naturel pour toi. Mais moi, qu'est-ce que j'étais? J'étais un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent, et Dieu m'a choisi. Il dit, Timothée, prends courage. Vous savez, c'est dans l'œuvre de Dieu, dans la vie chrétienne, ne regardons pas à notre CV. Il dit, mais moi, tu sais pas tout ce que moi j'ai fait, ce que j'ai vécu, et puis de quel genre de famille je sors, et tout ça. Ça n'intéresse personne. Parce que Dieu nous reçoit, il n'y a pas un d'entre nous qui soyons dignes. C'est pas parce que mon père était pasteur que je suis pasteur. Ça n'a rien à faire. Je connais d'autres... un frère Bon, il n'est plus à Paris là maintenant, il est en train de faire une formation à l'étranger, mais c'était un dealer. Et à Paris, il était responsable d'une église. Vous savez, c'est ça la grâce de Dieu. Hein, sinon, le mot grâce n'a pas de sens. C'est parce que je suis indigne que le mot grâce a un sens. Il dit, c'est pas ce que tu as fait. C'est pas parce que tu as fait des études, c'est parce que tu n'en as pas fait. C'est pas parce que tu as grandi, peu importe quelle origine, quelle religion, quelle... Dieu, Paul dit, Dieu m'a jugé digne. C'est lui qui m'a choisi pour porter l'évangile. Et quand Paul a été jugé digne, et parce qu'il a été appelé, il ne s'est pas élevé au-dessus des autres. Hein, il a... se considérant meilleur que les autres. Paul ne s'est jamais considéré meilleur qu'un autre. Et nous devons, peu importe notre expérience chrétienne, et ce qui arrive, et malheureusement ça arrive quand même dans les églises, il y a des chrétiens qui vivent une expérience, et voilà ce qui m'est arrivé, tout ça, et puis tout d'un coup, il croit qu'il est passé à la catégorie supérieure des chrétiens. Il n'y a pas, ça existe, peu importe ce que j'ai vécu. Même si Dieu m'a ressuscité des morts, je ne suis pas meilleur qu'un autre. C'est parce que ce n'est que l'œuvre de la grâce de Dieu. Et quand c'est quelque chose qu'on reçoit par grâce, eh bien, il n'y a pas à se glorifier. Si c'est quelque chose que j'avais gagné moi-même, que j'ai acheté, peut-être que j'aurais des raisons. Mais quand c'est une chose que j'ai reçue par grâce, je ne peux pas me glorifier, je ne peux pas m'élever au-dessus d'un autre. Et Paul dit, j'ai été jugé digne. Dieu m'a confié cette grâce. Et puis il a ce sentiment qu'il doit la remplir à tout prix. Il a dit, mais Dieu m'a appelé, donc il faut que je le fasse. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas arrêté. Toute sa vie, il ne s'est pas arrêté. Alors il nous dit dans ce passage, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Il a dit Dieu nous a jugés dignes, c'est pour ça que nous avons prêché. C'est pas parce que nous avons nous sommes supérieurs ou nous nous considérons supérieurs à un autre. Et c'est sûr que ce qui est arrivé à Thessalonique, c'était extraordinaire, hein, parce que, comme nous l'avons vu dans le chapitre premier, c'est que tout le monde a entendu parler de ce qui se passait à Thessalonique. Et c'était extraordinaire, et certainement que ça a créé des jaloux pour ceux qui étaient encore dans la chair. Mais il nous dit aussi, je n'ai pas cherché à plaire aux hommes. Et ça, c'est très important et c'est un principe même pour chacun d'entre nous. C'est pas seulement pour l'apôtre Paul comme prédicateur, mais pour nous de ne pas plaire aux hommes. Vous savez, depuis le tout petit à l'école primaire jusqu'à la fin de notre vie, il y a toujours cette pression d'être à la hauteur des attentes. Tu n'es pas habillé comme celui-là. Tu n'as pas physiquement, tu ne peux pas faire ça. Sportif, tu n'es pas aussi sportif que l'autre. Et il y a toujours cette pression. Il y a des gens qui vivent sous cette pression. Mais comme le dit si bien cette fable de La Fontaine, il dit on n'arrivera jamais à plaire tout le monde. Quoi qu'on fasse, hein, le meunier son fils et l'âne. Impossible de plaire. Il y aura toujours. Alors ne cherchons pas à plaire les hommes. Parce que quoi qu'on fasse, je vis dans le monde, on me dit regarde ça, c'est un chrétien, il vit dans le monde. Je me retire à la montagne, il dit mais regarde, ça sert à quoi d'aller se retirer à la montagne? Peu importe, on ne peut pas. Donc ne cherchons pas à plaire aux hommes. Et puis s'il fallait plaire aux hommes, eh bien on ne leur dirait pas la vérité. Et Dieu nous a envoyés pour dire ce qui est vrai. Dieu nous a dit, nous l'avons vu dimanche dernier, il dit la vérité, mais dans l'amour, dans la grâce. Les hommes, ils prétendent dire la vérité, hein, ils parlent des mêmes quatre vérités, mais c'est avec accusation, c'est avec... s'ils détruisent, ils démolissent. avec leurs quatre vérités, alors que quand Dieu nous parle et il nous dit la vérité, mais il dit avec Jésus-Christ est venu avec grâce et vérité. Alors l'apôtre Paul, il dit, moi, quand je suis venu, j'ai prêché, pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Donc il ne regarde pas seulement la performance, mais il voit ce qu'il y a dans mon cœur quand je sers. Paul dit aux Corinthiens, il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, de Corinthiens 4. Il dit, ça existe. Il y en a qui prêchent pour les mauvaises raisons. Il dit, c'est vrai qu'il y en a que c'est par jalousie, il y en a que c'est pour dominer. Hein, c'est vrai, un prédicateur, il peut être tenté, hein, il peut vouloir, et ça arrive. Et il y a des prédicateurs qui, tout d'un coup, ils sont là au-dessus, et puis ils deviennent des gourous. Et c'est jamais ce que Dieu avait prévu. Et l'apôtre Paul dit, moi, c'est pas comme ça. Hein, je n'ai pas cherché d'être le fondateur d'un mouvement, et puis ou d'avoir des disciples qui me suivent. Il dira même à l'une des églises, il dit, je remercie Dieu que je n'ai baptisé aucun de vous, sinon, et puis il cite deux, trois noms. Mais il dit, comme ça, il n'y a personne qui dit, moi j'ai été baptisé par l'apôtre Paul. Oh. Les êtres humains, ils sont capables de faire n'importe quoi. Hein? Moi, je viens de l'église de monsieur Untel, du pasteur Untel. Ah, alors celui-là, il doit être bien reçu. Non, tu es sauvé par la grâce. Il dit, Paul dit, même si j'ai été appelé à être apôtre par Dieu, eh bien cela ne exige quand même que je vive une vie sans reproche. Hein? C'est pas, hein, vous savez, il y a des scandales. Et ce n'est pas seulement dans l'Église catholique, mais on a parmi les religieux la pédophilie, on a des choses qui arrivent et qui choquent même les incroyants, ils sont choqués par cela. Hein? Même par les athées, qui ne croient pas en Dieu, mais ils disent non, ce n'est pas normal. Et pourtant ça existe, et ça existe hein, chez les protestants, et ça existe. Parce que l'être humain, mais l'apôtre Paul dit, j'ai été appelé par Dieu, et ce n'est pas pour ça que j'ai une excuse pour me comporter n'importe comment. Hein? Et il dira à Timothée, jeune pasteur, hein, dans sa deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, verset 15, il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Il dit, voilà, tu es serviteur de Dieu. Et si Dieu vient et te dit alors, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas à rougir. Tu ne baisses pas la tête. Non, on est content de le voir. Hein, c'est l'apôtre et ses compagnons avaient besoin de prendre de l'assurance en Dieu. Alors, ce n'est pas parce que s'il venait de dire Dieu, tu sais, on n'a vraiment pas envie. On ne se sent pas en forme. Alors, si tu ne nous donnes pas de la force, nous n'allons pas pouvoir prêcher dans cette ville de Thessalonique. Ben avec une attitude pareille, il ne risquait pas d'être charnel. Hein, avec, quand une personne vient de sortir de la présence de Dieu et pour faire une œuvre, eh bien, il ne va pas être motivé par les choses charnelles comme on l'accuse de l'apôtre Paul. Et puis en plus, vous savez, ceux qui souffrent, ceux qui sont persécutés, eux venaient d'être persécutés. Vous savez, souvent, les chrétiens les plus purs, ce sont ceux qui vivent dans la persécution. J'ai lu hier soir, et ça m'a plu, cette image. Il dit, supposons que le chrétien soit revêtu d'un manteau, et que ce manteau représente Jésus-Christ. Eh bien, c'est quel climat qui va m'obliger à garder le manteau? C'est le froid, c'est le vent, c'est les intempéries, Tandis que, qu'est-ce qui va me faire enlever le manteau? C'est le soleil, le chaud, tout, quand tout va bien. Et c'est exactement comme ça, spirituellement. Hein, c'est quand les choses sont dures, quand il y a la difficulté, quand il y a l'opposition, eh bien, on serre. Hein, on serre Christ contre nous. Quand tout va bien, je prie pas, c'est pareil. Mon petit déjeuner, c'est le même. Et j'ai exactement celui que je veux. Et puis, j'ai... Alors, c'est difficile de prier. Hein? Alors, mais ces apôtres, ils venaient de subir la persécution à Philippe. Donc, normalement, hein, et le fait qu'ils veuillent encore prêcher après ce qu'ils ont vécu, ça montre qu'ils ne sont pas motivés par des choses charnelles, par des ambitions personnelles, mais justement par Dieu. Si l'apôtre Paul avait cherché à plaire aux hommes, eh bien, il a fait un mauvais choix après la route, après Damas, là. Hein. Parce que pendant le reste de sa vie, eh bien, ça va être la souffrance, la difficulté. Il dira même dans 2 Corinthiens, chapitre 11, il fera la liste de tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Il dit combien de fois il a été battu, combien de fois il a été persécuté, combien de fois il a des tempêtes, combien de fois... Et il y a une quinzaine de versets, là, où il énumère tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a vécu, parce qu'il... Il a dit, si c'était pour plaire aux hommes, il a fait un mauvais choix. Hein, c'était pas... Où il passait, on l'applaudissait pas, hein, quand il arrivait. En général, il partait rejeté. Et il dit aux Galates, au chapitre 1, les versets 10 et 12, il dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous le déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Il dit, si je cherchais à plaire aux hommes, eh bien, c'est pas comme ça. Avant, il plaisait. Quand il était le persécuteur de l'Église, alors là, les pharisiens, ils l'applaudissaient. Mais quand il a commencé à prêcher Christ, alors c'était autrement. Pour lui, ce qui importait, c'est d'être trouvé fidèle. Il nous dit dans 1 Corinthiens 4, il dit, ce qui importe, c'est d'être trouvé fidèle. Et c'est ce mot-là, hein, c'est pas être reconnu, c'est pas une question d'être applaudi, c'est pas la question d'avoir de la foule, mais c'est une question d'être trouvé fidèle par Dieu. Hein, quand c'est notre ambition doit être le jour où je rencontre Jésus-Christ, qu'il puisse me dire bon et fidèle serviteur. Et ce n'est pas une question de combien j'ai accompli, c'est une question de si j'ai bien fait le travail que j'avais à faire. Vous dites, vous prenez un enfant en CEA qui fait un total, il fait ses opérations, là, ses additions, hein, c'est des 3 plus 2, des 4 plus 5, et tout ça, et il fait tout ça juste, il a 10 sur 10. Et vous avez en terminale, vous avez quelqu'un qui a passé toute la nuit à rédiger, à faire des calculs et tout ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a? L'équivalent 20 sur 20. C'est la même note, c'est la même appréciation. Très bien. Il y en a un qui... Non, mais chacun selon ce qu'on demandait de lui. Hein, c'est ça être fidèle. C'est qu'est-ce que Dieu demande de moi et est-ce que je le fais bien? À ma place. Ce n'est pas une question de combien m'ont vu, mais c'est une question de j'ai fait ce qu'il demande de moi. C'est ça. Et l'apôtre Paul avait compris cela et nous avons besoin de le comprendre aussi. Et parfois, même dans nos milieux évangéliques, il y a de la pression. Et alors, certains allongent leurs prières et d'autres chantent plus fort et d'autres, il faut qu'ils soient dans l'orchestre pour qu'on les voie sur l'estrade. Il y a toutes sortes. Je ne dis pas que tous ceux qui prient le font pour être vus, mais il y en a. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui jouent sur l'estrade qui sont charnels, mais il y en a. Hein, il y a cette pression d'être vu, d'être dans la caméra. Et donc, nous devons faire très attention. Et ce n'est pas un autre qui peut le juger, c'est à moi de voir. Hein. Je regarde celui qui est dans le miroir, je dis, mais lui, pourquoi il fait cela? Et c'était ça, hein, toute la question là, c'était pour l'apôtre Paul, quelles sont ses motivations? Est-ce qu'elles étaient charnelles ou est-ce qu'elles vraiment motivées par Dieu? Et dans notre vie, on n'a pas besoin d'être pasteur pour que ce soit vrai, c'est pour chacun d'entre nous, dans notre vie chrétienne. David a dit à son fils Salomon, il dit, et toi Salomon, connais le Dieu de ton père, sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Et il dit, Salomon, écoute, l'Éternel sait tout ce que tu penses, il sait tout ce que tu projettes, il sait tout ce que tes motivations, tes désirs, il connaît tout cela. Alors autant t'aligner sur sa pensée. Il dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. C'est dans 1 Chronique 28, verset 9. Il dit, Salomon, c'est toi qui choisis. Salomon a bien choisi dans sa jeunesse. Plus tard dans sa vie, il s'est laissé entraîner par l'influence de ses épouses, ses femmes, dans son harem. Mais c'est une question, c'est un choix finalement, c'est un choix de pas à un moment précis de la vie, c'est un choix de tous les jours, de vivre pour lui. On pourrait lire dans Luc chapitre 7, et je vais vous rappeler le récit, je pense que vous le connaissez, c'est Jésus qui se trouve dans la maison de Simon le lépreux, il est à table. Et juste pour vous mettre le contexte, donc c'est Luc 7, verset 36 à 50, et ils sont à table, et à l'époque, quand ils se mettaient à table, c'est pas comme nous, hein, ils n'avaient pas des chaises, et puis on mettait les pieds sous la table. Eux, c'était sur des banquettes, et les banquettes étaient alignées autour d'une table basse, et donc on était allongé, et on s'appuyait sur un coude, et on mangeait avec l'autre main. Et c'est comme ça, donc les pieds étaient tous vers l'extérieur. Peut-être ça prend un peu plus de place. Je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude comme cela, mais voilà, c'était comme ça que ça se faisait. Ça, c'était un repas vraiment où on le faisait correctement. Alors, Jésus et ses disciples étaient comme ça chez Simon, le lépreux, et le pharisien, et ils étaient là en train de manger. Et puis, il y a une femme qui rentre de l'extérieur, parce que c'était le Moyen-Orient, hein, les portes sont ouvertes, tout est ouvert. Elle rentre. Et donc, elle s'approche au pied de Jésus. Donc, vous comprenez, ils sont en éventail autour de la table. Hein, donc, les pieds sont vers l'extérieur. Hein, parce que si c'était comme chez nous, la femme serait obligée de se mettre sous la table. Et puis après, avec tous les pieds, vous voyez que ça ne marcherait pas. Hein. C'est pour ça que c'est important de donner le contexte culturel. Sinon, on ne comprendrait rien. Donc, ils sont en éventail comme ça. Et alors, la femme arrive et elle vient vers Jésus. Et... Elle, c'est donc la seule partie qu'elle peut atteindre, ce sont ses pieds. Et elle pleure. Et les larmes tombent sur les pieds de Jésus. Et alors elle essuie ça avec ses cheveux. Et puis il y a Simon qui est là à côté. Lui, pharisien, hein, homme juste. Il pense dans son cœur. Il dit, mais Jésus là, si vraiment il était prophète, eh bien, il saurait que cette femme qui est en train de le toucher les pieds, c'est une mauvaise femme. Et chez eux, si tu es mauvais et tu touches, tu souilles. Donc, il ne faut pas toucher. Il ne serrait pas la main d'un païen parce qu'il est sale n'importe comment, même si c'est lavé. Et alors, ces pharisiens, ils avaient leurs idées. Et il est en train de penser, il est en train de dire, mais Jésus, comment il peut permettre à une telle femme? C'était certainement Marie de Magdala qui avait une pécheresse et qui s'était repentie. Et Jésus laisse faire. Et Simon, il dit, mais ça, non, ça passe pas. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Jésus sait ce qu'il pense. Et Jésus lui parle et lui pose des questions. Il dit, Simon, puisque tu sais tant de choses, c'est... Et il lui raconte une petite histoire. Et il parle d'une personne à qui une petite dette a été remise et une personne à qui une grande dette a été remise. Il dit, c'est lequel des deux qui va aimer celui qui a remis la, lui a remis la dette? Il dit, bah, c'est certainement celui à qui a le plus pardonné, hein, celui qui avait une dette de 100 000 euros. Eh ben, il va aimer plus que celui qui n'avait qu'une dette de 50 euros, hein, qui a été remise. Il dit, bon, 50 euros, ça lui aurait coûté, il est riche quand même. Mais l'autre, Jésus lui a posé la question, il a dit, bon, certainement celui à qui le plus a été remis. Jésus dit, bah, tu as bien répondu, là. Il dit, tu vois, cette femme-là, ah oui, la dette était grande. Et sa dette a été remise. C'est pour ça qu'elle aime. Il dit, toi, tu crois que tu es sans péché, donc rien n'a été remis, Dieu n'avait pas grand-chose à te pardonner, tu es content de toi. Il dit, mais moi, quand je suis rentré ici, tu m'as ni lavé les pieds, ni tu m'as oint la tête, ni tu m'as rien fait, tu m'as pas reçu correctement comme un invité. Mais elle, eh bien, depuis tout à l'heure, elle est en train de me laver les pieds et en train de m'oindre. Il dit, c'est parce que beaucoup lui a été pardonné. Et puis après, il dit à la femme, lève-toi, va en paix, tes péchés sont pardonnés. Mais la partie que je veux faire souligner de cette histoire, c'est le fait que le pharisien, il était en train d'essayer de juger la femme, mais de sonder le cœur de la femme. Mais ce qu'il ne s'est pas rendu compte, c'est que Jésus était en train de sonder son cœur. Cette femme, elle est partie pardonner. Mais cet homme-là, parce qu'il n'a pas pris conscience du fait que il n'a pas laissé à Jésus de sonder son cœur pour lui dire son péché, sa mauvaise attitude, eh bien, lui, il n'a pas été changé. Et finalement, la femme qui était pécheresse, oui, elle avait fait, mais elle part en paix, sachant qu'elle a la grâce de Dieu, le pardon de Dieu. Tandis que cet homme-là, ben, il n'a rien du tout. Dieu sonde les cœurs de la femme et du pharisien. Mais elle a accepté le pardon et elle est partie justifiée, tandis que ce pharisien, qui n'a pas accepté, qui n'a pas reconnu que Jésus sondait son cœur, qui n'a pas compris que quand Jésus l'a posé la question, c'était vis-à-vis de lui, eh bien, il n'a rien reçu. Et donc, nous devons faire très attention aussi, nous devons nous souvenir que ce n'est pas une question de voir et dire « Ouais, mais tu as un tel, bon alors, t'occupe pas d'un tel, occupe-toi de toi, sonde ton cœur et vois si tu es dans la vérité. » Et je termine avec ces pensées. C'est le psalmiste qui élève ses pensées vers Dieu et qui dit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Passer au creuset, vous savez, le pilon, là. C'est ça, le creuset. C'est le pilon, là. Il dit, parce que eux, quand ils voulaient, ils prenaient du minerai, hein, ils n'ont pas les méthodes de maintenant, et puis alors, ils passaient au pilon, et broyait le minerai, donc il y avait l'argent plus toutes les saletés, il le broyait, puis ensuite il le passait au feu. Et alors il dit, mais fais pareil avec mon cœur aussi, avec mes pensées. Mets-le dans cela et broie-le, et puis éventuellement on pourra séparer ce qui est de valeur et ce qui ne vaut rien. Et alors il dit, sonde-moi, ô Dieu, c'est ça l'attitude. Il dit aussi, ça c'était dans le psaume 26, verset 2, il dit aussi dans le psaume 139, verset 23, il dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Nous ne pouvons pas connaître les pensées des uns des autres. Nous pouvons constater les actions, mais pas connaître les pensées. Et justement, nous ne pouvons pas faire des jugements d'intention. Parce que justement, on n'a pas cette capacité. Mais on peut. Dieu, il sait tout. C'est une question de reconnaître. On ne doit pas faire ce que Simon, le pharisien, a fait, mais plutôt ce que cette femme a fait. Mais Dieu, sonde mon cœur et pardonne-moi. Jérémie dira dans au chapitre 17, verset 10, il dit « Moi, Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Il dit « Peu importe comment on est reçu sur terre, Dieu fera sa propre idée de notre vie. Hein, une fois que nous serons dans la gloire. Pour certains, c'est une mauvaise nouvelle, pour d'autres, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est, il fera, ce ne sera pas basé. Hein. Il dit, ouais, mais moi. Et puis Jésus en parle. Hein, il dit, il y a des gens qui disent, mais Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons fait ceci en ton nom, nous avons proclamé, nous avons. Il dit, je ne connais pas. Il dit, moi, je ne sais pas, la célébrité que tu as eue sur terre, ça n'a rien à faire avec moi. Hein. Moi, je t'évalue selon ce que je pense, c'est ce que je sais. Et donc, il y a des gens qui sont inconnus sur terre. On va être dans la gloire, on va dire, tiens, d'où il sort celui-là, jamais entendu parler. Il dit, oh, c'est quelqu'un qui a été fidèle, dans l'ombre peut-être, mais qui a été fidèle jusqu'au bout. Je termine avec une blague, mais c'est sérieux. Il nous dit qu'un jour, il y avait un pasteur et un chauffeur de taxi de New York qui sont tous les deux morts le même jour et sont arrivés dans la porte du ciel. Et alors, le pasteur, il a vu le chauffeur taxi, il s'est dit, bon, les chauffeurs taxi, on les connaît. Moi, je vais avoir une meilleure réception que lui. Mais à son étonnement, c'est le chauffeur de taxi qui a une meilleure réception, qui est mieux reçu et tout ça. Et lui, il est un peu ordinaire. Il est à tel point, il est tellement déçu qu'il va poser la question à Saint-Pierre. Et puis il dit, mais je ne comprends pas pourquoi... Lui, chauffeur de taxi, hein, vous savez comment il fait toutes sortes de choses. Et puis moi, je suis quand même un pasteur, un serviteur de Dieu. Saint-Pierre lui dit, écoute, il dit, toi, tu prêchais la parole, mais quand tu prêchais, les gens s'endormaient. Tandis que lui, quand il conduisait, les gens priaient. Ça, c'est la blague. Le sérieux, c'est Dieu se fait sa propre idée sur chacun d'entre nous. C'est pas la réputation que j'ai sur terre. C'est Dieu se fait sa propre idée. Et c'est, pour moi, je trouve ça beau. Parce que la vie, elle est injuste. Les gens qui devraient être remerciés ne le sont pas. Et ceux qui n'ont pas besoin d'être remerciés le sont. La vie est injuste. Bon, c'est notre monde. C'est pour ça qu'il y a un salut. Hein, c'est pour sortir de là. Mais avec le Seigneur, ce sera autrement. L'apôtre Paul, qui faisait que l'œuvre de Dieu, a été critiqué. Mais je suis certain qu'il a été bien reçu par Dieu. Et ce qui importe pour chacun d'entre nous, ce n'est pas ce que le monde pense de nous, on n'est pas là pour plaire aux hommes, mais on est là pour plaire à Dieu et vivre pour lui, à sa gloire. Et jouir de son pardon, et ensuite vivre ce pardon chaque jour autour de nous. Prions.